poursuit. C'est même étendu ces derniers jours en région.
Tous les sujets seront abordés, il sera mon invité en direct.
Salut les amis, alors il y a deux semaines j'ai fait un reportage exclusif portant sur le grand débat qu'est le choix du nom du mouflon, mouton de Soet, qui a vu le jour sous les yeux confinés du campus Descartes. D'ailleurs le choix est fait, c'est risotto, bravo à vous d'avoir prouvé, encore une fois, à votre goût les normaliennes et les normaliens. Mais cette semaine l'enjeu est autre. Plus qu'un jeu, un phénomène culturel. Déjà qualifié de Dark Souls des férus de géographie, le jeu Saut de Canton a, en l'espace d'à peine 10 jours, retourné le Twitter francophone. Et évidemment, nous n'allions pas laisser passer l'info comme ça. J'ai pu donc avoir au téléphone un peu plus tôt dans la journée Pierre, un des cofondateurs du jeu.
Et alors, qu'est-ce qui t'a pris Pourquoi ce jeu?
C'est un pote qui m'a envoyé un message. Il s'appelle Corentin, c'est lui qui a eu l'idée, vraiment. Il m'a dit, tu vois, sur Wikipédia, l'endroit où, sur les pages des villes, il y a une boussole et il y a toutes les villes alentour, on peut se déplacer de page en page. Et ça pourrait être marrant d'imaginer un jeu où on n'a pas d'autres informations et on se déplace comme ça de ville en ville. Après, un autre ami m'a montré qu'il y avait quelque part sur Internet une liste de toutes les villes avec les villes voisines. Et à partir de là, j'ai testé de faire une petite page web où on pouvait lister toutes les villes voisines d'une ville et... Après, j'ai développé jusqu'à faire le jeu complet.
Alors, si je ne m'abuse, le jeu existe depuis le 29 avril et il a été du coup compilé grâce à OpenStreetMap. Et tu pourrais m'expliquer un peu comment tu as réussi à faire ?
Les données viennent d'OpenStreetMap qui ont eux-mêmes pris leurs données du cadastre. Donc, normalement, c'est super précis. Et quelqu'un, Christian Kest, sur Internet, avait déjà mis en ligne... transformer les données d'OpenStreetMap en données de villes voisines en regardant celles dont les frontières se touchaient, en fait, entre guillemets.
Ah, c'est super intéressant et j'ai un peu centralisé des questions de mes amis qui sont devenus très, très, très fans en très peu de temps de Saut de Canton et ils me posent la question, mais comment tu réussis à séparer les villes qui sont par exemple au nord, au nord-ouest, à l'est? Et surtout, qu'est-ce qui se passe si l'algorithme te parachute automatiquement dans une grande ville?
On a justement un petit problème de direction à certains endroits, parce que pour l'instant, la position des villes les unes par rapport aux autres, elle est décidée. C'est un peu compliqué, et même moi je ne comprends pas bien, parce que ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'était cette partie qui vient du contributeur d'OpenStreetMap, par rapport globalement à ce qui serait le barycentre de chaque ville. C'est gênant pour certains joueurs parce que quand ils connaissent les villes et que typiquement un centre-ville est tout au nord d'une ville, ils vont pas comprendre pourquoi la ville qui est pour eux plus au nord, elle est marquée à l'ouest sur le jeu. Mais c'est parce qu'en fait, la ville elle peut s'étendre largement au sud sur des campagnes et donc son centre est plutôt au sud alors que le centre de la ville qu'ils considèrent au nord, il va être plutôt à l'ouest finalement. Alors, je connais les populations de chaque ville, évidemment, pour déterminer si la partie est gagnée ou non à partir de la population de la ville. Du coup, on peut commencer que dans des villes de moins de 1000 habitants. Ça enlève déjà le problème de tomber dans la ville gagnante immédiatement, ou voire en banlieue, parce que généralement, des villes de moins de 1000 habitants, elles ne sont pas en banlieue de villes de plus de 50 000 habitants. Et en plus, ça donne un côté un peu dur parce qu'on tombe évidemment dans des coins paumés à chaque fois.
Alors justement, comment on fait pour être le meilleur possible à ce jeu?
Bonne question. Moi-même, je trouve ça super dur parfois. Pour être bon, je pense qu'il faut connaître déjà les rivières, parce que souvent les villes sont nommées d'après les rivières qui les traversent ou qui sont proches. Et il y a un truc super intéressant, c'est les toponymies régionales, qui se retrouvent dans certains endroits. Alors classiquement, les villes d'Alsace et un peu de Lorraine, on les reconnaît très vite, les villes qui finissent en Heim, les villes qui finissent en Schwitz, des choses comme ça, on va reconnaître très vite. Les villes autour de Bordeaux ou dans le Limousin qui finissent en Hac aussi. Il y a des petites astuces comme ça. Et sinon, je pense que moi, le plus marrant pour moi, c'est de juste fonctionner d'expérience et de se dire « Ah, mais le nom de cette ville me rappelle... un voyage que j'ai fait me rappelle quelqu'un que je connais qui habitait là-bas ou des choses comme ça, et d'essayer d'estimer par rapport à ses souvenirs où on est.
Mais c'est une manne d'or absolue pour les géographes. Ce que tu nous racontes, c'est d'autant plus intéressant que cette année, au programme du CAPES et de la grecque de géographie, il y a les espaces ruraux. Et alors, j'ai lu un article des Inroc qui est sorti hier et qui parlait de ton jeu justement et qui a interviewé un géographe qui dit que l'expérience de saut de canton, c'est la diagonale du vide comme ultime horizon inatteignable, mais néanmoins parcouru. Alors bon, évidemment, on peut dire que ça peut être carrément vu comme un effort politique ton jeu, mais qu'est-ce que t'en penses, toi?
Alors, c'est pas un effort politique du tout, dans le sens où j'ai pas du tout spécialement de choses à défendre sur la ruralité ou quoi que ce soit. J'ai jamais habité en campagne, par exemple. Moi, c'est quasiment poétique parce que c'est les toponymes qui m'intéressent. C'est ça qui est super beau. Et c'est les souvenirs qu'on fait en voyageant qui m'intéressent.
Alors, justement, c'est pas un peu un jeu de boomer?
Ah, c'est... J'en suis ravi, c'est vraiment un jeu qui plaît énormément aux gens qui ont 50 ans, 60 ans et plus, parce que ils ont d'autant plus de souvenirs de voyage.
Oui, d'ailleurs, il y a Cécile Duflot, ancienne ministre du Logement, qui a fait la pub de ton jeu il y a quelques jours, et qui est elle-même géographe d'ailleurs.
Ah, je ne savais pas. Ouais. Bah, Cécile Duflot veut jouer avec ses enfants aussi, et je me suis intéressé ces derniers jours à comment on pouvait justement faire jouer les enfants qui partent, pour le coup, eux, d'aucune connaissance. Donc, on peut leur faire utiliser une carte, évidemment. Et du coup, aujourd'hui, par exemple, j'ai rajouté des fonctionnalités pour qu'on commence dans un département précis. Comme ça, si on veut jouer avec ses enfants, on peut les mettre dans le département où on habite. Et les noms vont plus résonner que si on les met à l'autre bout de la France.
Et est-ce que tu as pensé à ajouter les DROMCOM ou des pays contigus à la France ou...
Très vite, les DROMCOM et la Corse ont été enlevés parce que déjà, si on tombe dedans, on ne peut pas en sortir. Et par exemple, sur l'île de Ré, on ne trouvera pas de ville de plus de 50 000 habitants. Il n'est pas encore question de les remettre parce que c'est des territoires si petits que des parties seraient très courtes dedans pour la plupart. Quant quant à d'autres pays, ouais, c'est une envie de les mettre. Alors, c'est parce que la France, elle a quand même un point particulier, c'est que elle a 36 000 communes et c'est 40% des communes de l'Union européenne. Donc, il y a vraiment un jeu qui est profond en France, qui va être... Justement, il est très compliqué, ce jeu, à la base. Mais c'est ça qui est un peu marrant, c'est qu'il est très long. On met très longtemps à sortir des petits pays.
Alors, évidemment, notre interlocuteur n'a pas échappé à la traditionnelle question éditoriale de la saison. Créer ce jeu en plein milieu de confinement, ce ne serait pas un peu une manière de s'échapper?
Je sais pas si le confinement a à voir là-dedans, parce que moi, c'est pas ce que je ressens personnellement et j'ai du mal à me projeter là-dedans. Parce que de toute façon, si on avait été au travail en ce moment, on serait pas non plus sur les routes de France. Donc, c'est pas ce qui nous manque spécialement d'aller partir sur les petites routes, les départementales de France. C'est pas ce qu'on fait au quotidien non plus. Je pense que ça rappelle plus vacances et des moments très particuliers, très rares, plutôt que le quotidien et qu'on essaye de retrouver peut-être en ce moment. Alors, Corentin et moi, on a pas du tout d'historique sur la géographie. Lui, je sais pas. Moi, j'ai une appétence en loisir pour ça. D'ailleurs, je joue beaucoup à GeoGuessr, qui est un jeu où on se retrouve n'importe où dans Google Street View et on doit savoir où on est. Donc, ça ressemble beaucoup finalement à ce que j'ai fait. Mais je m'intéresse à des initiatives géographiques du genre The Big Walk, qui est un jeu qui, à partir des pas que l'on fait dans la journée, qui sont comptés par des mécanismes électroniques, nous amène à faire le tour du monde.
Alors, dernière petite question, c'est quoi ton meilleur score?
Alors, ce qui est incroyable, c'est que mon meilleur score sur une partie, on va dire, classique, c'est-à-dire trouver une ville de plus de 50 000 habitants, c'est 146, et je l'ai fait dans les tout premiers jours, et j'ai jamais réussi à refaire aussi bien depuis.
Bon, vous l'aurez compris, chères auditrices, chers auditeurs, ce record est en fait une invitation à le battre. N'hésitez pas donc à partager avec nous vos aventures les plus absurdes sur Saut de Canton ou à juste simplement haïr en silence la ville de Laval, qui est probablement la manière la plus frustrante d'y perdre avec ses 47 700 habitants, c'est-à-dire juste en dessous de 50 000. Allez, bonne fin de confinement à vous et bisous post-vidalien subcritique.
journal radiophonique amplifié de Transistor, en direct avec vous jusqu'à 21h. Attention à vos oreilles.
Merci Nicolas, de super et surtout interminables parties de saut de canton en perspective. Et c'est maintenant l'heure de la revue de presse lue par Mathilde et écrite par Marie.